peux mettre la diapositive. Alors, je suis désolé ce matin, hein, je vais être un peu comme dans cette image, le petit mignon hein, qui va avec son micro vous demander de ramer. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Et pour ceux qui avaient raté l'épisode 1 de l'épître de Jacques, il est important de faire quelques petits rappels de contexte. Voilà, c'est important juste pour se rendre compte un petit peu hein, de ce que l'on va du texte que l'on va aborder ce matin. Alors l'épître de Jacques a été écrit par Jacques, alors jusqu'ici c'est pas un scoop, mais surtout hein, qui est ce Jacques? Comme on a vu ce matin, Jacques ne s'est pas présenté. Il était déjà connu et reconnu, hein, en tout cas dans les versets introductifs de l'épître, enfin, du chapitre 1. Et effectivement, beaucoup de théologiens disent aujourd'hui que ce Jacques est le frère de Jésus, qui s'est donc converti après la résurrection de notre Seigneur. Il était présent au moment de la Pentecôte et ensuite il a pris des responsabilités importantes au sein de cette église de Jérusalem. Église de Jérusalem qui va connaître ensuite une persécution importante, avec notamment la mort d'Étienne. Et c'est pour ça que dans le premier chapitre, il est question ici de cette lettre hein, qu'il adresse aux Juifs convertis, hein, dispersés en Judée. Un élément qu'on n'a pas cité la semaine dernière, hein, c'est qu'on peut dire que cette communauté, elle a été aussi marquée par une certaine pauvreté à laquelle elle a cherché à faire face, notamment dans le début du livre des Actes, par le partage des biens. C'est un élément important parce que vous allez voir que dans les versets que nous allons lire, il est question justement de richesse et de pauvreté et de comment l'accueillir. Sans plus attendre, je vous propose de parcourir ce deuxième chapitre. On va le couper en deux, hein, sinon c'est un petit peu long. Et on va lire ensemble Jacques 2, des versets 1 à 13 pour commencer. Hein. Et je vais ensuite commenter ce texte.
Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, à mes pieds ». Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous méprisez le pauvre? Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi, parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Mais la compassion triomphe du jugement.
Le favoritisme et les discriminations sont donc le premier sujet que Jacques aborde dans ce texte. Et on va donc se poser cette question qui va nous servir de fil conducteur. Quelle est notre attitude face aux apparences de richesse et de pauvreté? L'expression du verset 1, gardez-vous de toute forme de favoritisme, est un seul mot en grec. Il signifie littéralement relever le visage de quelqu'un, c'est-à-dire juger selon les apparences. Jacques décrit au verset 2 une situation où des croyants se réunissent quand survient un homme richement vêtu. Alors, ses habits, littéralement, hein, le terme utilisé somptueux, hein, des gris brillants. C'est quelqu'un qui a de l'or sur lui, des paillettes, hein, du bling-bling. Il en jette avec son costume tape à l'œil. Mais attention, hein, Jacques ne va pas condamner ce riche. On aurait tendance, effectivement, nous, à la lumière d'autres passages de l'Évangile, hein, à tout de suite à dire que voilà, c'est un petit peu de sa faute. Hein. Les riches, de toute façon, ils n'ont pas leur place dans l'Église. Alors que non, ce n'est pas le cas ici. Ce riche, alors qui certes fait penser peut-être à ce personnage hein, que vous connaissez peut-être, Jacques-Henri Jacquard, qui aime bien hein, justement les costumes roses en lin, Chartwood, juste histoire du coup de se faire un petit peu remarquer. Effectivement, peut-être que ce riche était comme ça, mais Jacques ne condamne pas le riche. Ce n'est qu'un figurant. Il est là uniquement pour mettre en lumière les réactions des gens de l'assemblée. Car au même moment, vous l'avez vu, hein, arrive un miséreux, un homme vêtu de haillons. Un contraste total donc avec ce premier personnage, un jacouille si vous préférez. Hein. Et élément important, quelle pourrait être la réaction donc des membres de cette assemblée? Quelle pourrait être la réaction des responsables? Siège d'honneur pour les uns, ou alors abaissement pour l'autre, élévation du plus riche et le pauvre plus bas que terre. Non, si vous faites cela, vous commettez un péché, dit Jacques au verset 9. Et cette faute est double. D'une part, établir une distinction entre des personnes, une discrimination, si vous préférez, sur la base de leur statut social. Et d'autre part, quelque chose d'encore plus grave, mépriser le pauvre tout en rendant hommage aux riches. Et nous, vers qui irions-nous le premier? Est-ce que nous ferions la même chose? Alors, je sais que personne n'est assis par terre ici, et il n'y a pas de siège d'honneur dans l'Assemblée. Donc, effectivement, nous avons fait des progrès hein, par rapport aux synagogues du 1er siècle. Mais quand même, cet avertissement, il s'adresse aussi à nous. Imaginons tout de suite, là, une magnifique Bentley qui se gare devant le parvis du 106. Et de cette magnifique voiture sort un chrétien évangélique, riche, beau, célèbre, je ne sais pas moi, Olivier Giroud par exemple. Et dans le même temps, un SDF, qui vient lui aussi pour la première fois dans notre assemblée, manque de bol, contrairement à aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule place assise. À qui irions-nous là proposer cette place? À Olivier Giroud? Ou à cet homme que personne ne connaît? Et là, je sens tout de suite un petit peu le conflit en nous. On a parlé la semaine dernière de tentation et d'épreuve. Typiquement, qu'est-ce que nous ferions? Et c'est plus difficile. Voilà, je ne préfère pas me prononcer parce que c'est une réaction effectivement un petit peu épidermique. On aura tendance, de manière générale, à regarder les gens selon leur apparence. On aura tendance à être plus enclin à parler à des gens de rang social élevé plutôt qu'à des plus modestes. Est-ce que nous recevons plus volontiers à notre table des gens démunis qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil? Ou alors des gens aisés qui va nous inviter ensuite fastueusement la prochaine fois. Quel accueil faisons-nous à ceux qui rentrent pour la première fois dans l'Église? Est-ce que nous nous arrêtons aux apparences? Est-ce que nous avons des préjugés au premier regard? Est-ce que vous connaissez le paradoxe du mendiant bien habillé? C'est une expérience qui a été menée par ce monsieur hein, qui s'appelle Bennett Callaghan, donc un chercheur en psychologie sociale à l'Université de New York. Et il a réalisé cette expérience hein, dans différents quartiers de sa ville ainsi qu'à Chicago. Cette expérience est toute simple. Hein. Dans la première configuration, il a un panneau et il demande de l'argent pour aider les sans-abri hein, de sa ville. Et dans la première configuration, il est habillé d'un costume. Voilà, il a les cheveux bien disciplinés, plutôt élégant. Et dans la seconde configuration, un simple t-shirt, des cheveux moins disciplinés. Et l'expérience a montré que la réponse de compassion des passants, elle a été évaluée en calculant le montant des dons effectués à chacune des deux personnes. Alors d'après vous, à qui a-t-on donné le plus d'argent ? À la personne qui était en costume. Et on a même donné, les passants ont donné deux fois plus d'argent, 2,55 fois plus pour être précis. Conformément à la théorie, les passants ont perçu l'homme en costume comme ayant un statut social supérieur. Ils l'ont également perçu comme plus compétent, plus fiable, plus honnête, plus proche d'eux. Ils ont donc été plus empathiques vis-à-vis de lui. L'habit ferait-il donc toute la différence ? Cette expérience révèle l'ampleur de notre cœur tortueux. Ce n'est pas le haillon ou le costume le problème, mais notre cœur et sa réaction face aux apparences. Nous devons être vigilants sur ces différences de regard, selon l'apparence de nos frères et sœurs, selon l'apparence de notre prochain. Et Jacques d'ailleurs met en lumière des pièges, les pièges et les conséquences d'un jugement selon les apparences, notamment au verset 5 à 7. Les pauvres, mais ils peuvent être riches dans la foi. Et nous pouvons donc nous priver d'une telle humilité, d'une telle confiance en Dieu, et donc de serviteurs dévoués dans nos églises à cause de notre mépris. C'est terrible ce constat. À l'inverse, courtiser les plus riches, ça peut se retourner contre nous. Leur orgueil, leur richesse, peuvent les pousser davantage à utiliser les avocats et les tribunaux, nous dit Jacques, pour outrager notre foi, s'ils ne ressentent plus un jour cette déférence, cette révérence, les sièges d'honneur qu'on leur a donnés au début, si un jour ils ne les ont plus. Attention, nous dit Jacques, à ne pas rendre hommage naïvement à ceux qui peuvent être facilement sous leurs meilleurs atouts. Eh oui, les plus beaux vêtements peuvent cacher plus facilement de vilaines attentions ou des mensonges. D'ailleurs, petite parenthèse, quand parle-t-on de vêtements pour la première fois dans la Bible ? C'est facile, c'est tout début. Eh oui, au début, dans la Genèse, quand le péché est arrivé dans le monde et qu'il a rompu cette relation de transparence avec Dieu, Adam et Ève ont voulu se cacher, et surtout cacher leur désobéissance, avec des vêtements qu'ils se sont fabriqués. Prenons donc garde aux belles apparences qui peuvent parfois dissimuler de mauvaises intentions. Jacques nous met donc en garde notre façon d'accueillir les autres, de façon générale. En préparant ce message, j'ai lu cette histoire qui m'a interpellé. Vous connaissez Mahatma Gandhi. Il écrit dans son autobiographie que quand il était étudiant, il avait lu les évangiles avec attention. Il croyait qu'à travers les enseignements de Jésus, on pouvait trouver un certain nombre de moyens pour solutionner le système discriminatoire qui existait en Inde à son époque et qui divisait les Indiens en castes. Il décida donc un jour d'assister à un culte dans une église qui se trouvait tout près de chez lui, et de parler au pasteur. Malheureusement, lorsqu'il entra dans le temple, le portier lui suggéra d'aller adorer Dieu avec les gens de sa race. Gandhi quitta l'église pour ne jamais plus y remettre les pieds. Il écrivit « S'il existe du favoritisme parmi les chrétiens, alors ils ne veulent pas mieux que nous, et je préfère rester un hindou. » Combien de personnes ne sont pas revenues dans une église à cause d'un mauvais accueil ? Combien de personnes ne sont pas revenues dans une église à cause d'un regard condescendant, d'un regard inquisitorial ? La Bible le dit sans équivoque. Romains 15, versets 5 à 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis. Et Philippiens 2, verset 3 va même plus loin. Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Aucun croyant ne doit donc traiter son frère en fonction de son apparence ou de son statut social. Au milieu du peuple de Dieu, il ne doit y avoir aucune discrimination. Alors comment concrètement, hein, accueillir comme Dieu le fait. Un café? Excellente idée. Il faut la garder. Le service accueil, bien sûr. Mais je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit que l'accueil, ce n'est justement pas uniquement l'affaire du service accueil, et ce n'est pas parce qu'il y a un café sur la table, à qui l'on va donner justement à ceux qui viennent d'arriver, hein, que voilà, on a solutionné hein, ce problème. Accueillir comme Dieu le fait, Jacques le dit au verset 8. Si au contraire vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. L'accueil, c'est l'affaire de tous, et elle doit être orientée, présidée par cet élément essentiel, ce commandement le plus grand, comme disait Jésus dans Matthieu 22, des versets 37 à 40, l'amour du prochain. Accueillir avec amour, c'est aller au-delà des apparences, c'est faire comme Jésus tout simplement. Jésus, par amour pour son Père, par amour pour les autres, est-ce qu'il s'est arrêté aux apparences? Non. Que ce soit un chef, un riche ou un mendiant, que ce soit une femme vertueuse ou une prostituée, un prêtre ou un simple juif, un homme instruit ou un ignorant, un religieux ou un païen, un honnête citoyen ou un voleur, ce qui préoccupait Jésus, c'était l'état de son âme. Et donc, il fallait aller au-delà des apparences. C'est cet amour auquel nous sommes invités hein, ici. Et pour interpeller ces juifs convertis, Jacques les renvoie à la loi de Moïse, qu'il connaissait très bien. Car celui qui a dit, au verset 11, « Tu ne commettras pas d'adultère », a dit aussi, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Jacques choisit deux péchés, pour lesquels le châtiment a été la peine capitale, pour bien souligner que ceux qui usent de favoritisme envers les riches, aux dépens des pauvres, sont grandement coupables devant Dieu. Prenons garde. Au verset 13, Jacques dit que Dieu sera sans pitié avec celui qui n'a témoigné aucune pitié. Et cette réciprocité, elle fait écho à une autre parole de l'Évangile, à ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. D'ailleurs, Jacques s'inspire beaucoup de ce sermon sur la montagne. Luc 6, verset 36, « Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons, comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonné. » Au calvaire, Christ a porté le jugement que méritaient nos péchés. Et Dieu a été miséricordieux à notre égard. C'est elle qui a triomphé, comme le dit Jacques au verset 13. La miséricorde a triomphé du jugement. Voilà pourquoi notre miséricorde, notre amour, doit aussi triompher sur toute idée préconçue, sur tout préjugé, sur tout jugement sur les autres. Aimons et accueillons les autres comme Dieu l'a fait pour nous, tout simplement. Enfin, prenons conscience d'une chose, et je pense que c'est important. Nos différences sociales, c'est nos différences sociales, alors ici dans ce passage, qui font notre richesse. Vous connaissez le dicton qui dit « qui se ressemble s'assemble ». Eh bien, je suis désolé, mais ça ne marche pas dans l'Église. Ça marche, oui, pas de souci, hein, au travail, dans un cercle amical, dans un parti politique, dans un syndicat, dans un club service, dans une association. Mais l'Église, c'est plus que ça. L'Église, c'est pour toutes les nations. L'Église, c'est pour toutes les professions. L'Église, c'est pour toutes les conditions. L'Église, c'est même pour tous les styles. La formule serait plutôt « qui veut ressembler au Christ, s'assemble. Qui veut aimer comme le Christ, s'assemble. » La diversité sociale de nos Églises est une richesse qu'on ne peut voir nulle part ailleurs, normalement. Reprenons la lecture du chapitre 2.
Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner quoi que ce soit pour pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi et l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte.
Nouvelle hypercute de Jacques. Il est cash, hein, je vous l'ai dit. Hein, c'est un des arguments qui sont assez directs. Alors, si les apparences sont trompeuses, on l'a dit, la foi, elle engendre des fruits visibles qui montrent une conversion véritable. Il commence par cette question. À quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne la démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle sauver? Jacques ne parle pas ici de quelqu'un qui a la foi, mais de quelqu'un qui dit l'avoir et n'en donne jamais la preuve. Quelqu'un qui paraît chrétien, car il en a les apparences, le discours, mais il ne l'est pas dans ses actes quotidiens. Jacques dénonce ici l'hypocrisie d'une croyance doctrinale, qui est peut-être correcte, mais qui ignore la nécessité de s'engager auprès du maître. Notre foi, pour être crédible, nous dit Jacques, doit se montrer extérieurement par des faits réels, c'est-à-dire par des œuvres. Jacques ne dit pas autre chose. Là aussi, si on reprend un passage du Sermon sur la montagne, quand il évoque notamment les fruits. Matthieu 7, versets 15 à 20, « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, les fruits de la foi révèlent la vérité de la conversion qui aurait pu être dissimulée par une belle apparence. Jacques précise sa pensée avec une illustration. Et là aussi, il prend l'exemple d'un miséreux. Cette fois-ci, il est bien accueilli dans l'assemblée. On lui dit bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Mais force est de constater que ce miséreux manque de tout. Les gens lui disent « Passe une bonne journée, à la semaine prochaine. » Des mots, un sourire, c'est très sympa. Et on a dit qu'il faut accueillir aussi avec ces mots, on va dire, sympas. Hein. Mais Jacques dit « À quoi cela sert-il ? » Il faut plus que des paroles. Si quelqu'un se trouve sur mon chemin avec des besoins matériels évidents, comment réagir? La parabole du bon samaritain, qui se trouve dans Luc 10, des versets 30 à 37, nous montre deux réactions. L'indifférence, l'évitement du sacrificateur et du lévite, et la compassion du samaritain. Alors, je ne vais pas développer cette parabole, ce n'est pas le moment. Mais il est évident ici, quand on lit cette parabole, qu'on a les deux premiers acteurs hein, qui passent devant cette personne qui a besoin de soins. Ces deux acteurs sont dans le paraître, donc le sacrificateur et le lévite. Ces deux acteurs sont dans les belles apparences de piété,
On leur aurait donné les sièges d'honneur, hein, comme disait Jacques au tout début, mais quand il faut agir, ils sont aux abonnés absents. Ils contournent la personne qui manque de soins et ils s'en vont. Au contraire, le Samaritain, celui qui est méprisé justement, c'est lui qui réagit, c'est lui qui agit, en prenant soin notamment de cette personne. Et finalement, c'est ça, être disciple. Notre amour doit donc se traduire très concrètement dans les faits. Cela dit, il faut préciser quelque chose d'important. Le salut s'obtient exclusivement par la foi. Et dans son épître aux Galates, écrit bien après celle de Jacques, l'apôtre Paul déclare sans équivoque: nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres comme le commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Galates 2, verset 16. Il faut rappeler que l'homme ne peut pas acquérir le statut de juste et la vie éternelle en obéissant même parfaitement à la loi. C'est impossible. Et ce n'est pas possible non plus d'obtenir le salut par une obéissance partielle. Car Dieu ne peut pas accepter autre chose que la perfection. Voilà pourquoi il fallait que Jésus vienne, que Jésus prenne sur lui les péchés de l'homme condamné et lui donne sa justice en échange. Le salut est par la foi. Mais si, et c'est Jacques qui le dit, si cette foi est authentique, elle produit inévitablement des bonnes œuvres. Des gens mal informés, ou pire, mal intentionnés, peuvent opposer Paul et Jacques. Mais il faut se garder de cela, parce qu'on peut du coup aboutir à une erreur doctrinale et avoir une mauvaise compréhension du lien entre foi et œuvre, et mal comprendre également ce qu'est la justification et la sanctification. Paul et Jacques ne regardent pas les choses de la même façon. Paul regarde l'origine de la justification. Jacques considère son résultat, son aboutissement. Paul et Jacques ne s'opposent pas, mais ils sont deux ados et ils ont deux ennemis. L'ennemi de Paul, c'est le légalisme, qui consiste à essayer d'être juste en essayant de respecter justement un certain nombre de règles. Et Jacques s'oppose à la croyance, à la confession de foi qui n'est que verbale et stérile, et qui n'engage pas la vie quotidienne de la personne qui prétend avoir la foi. Le dialogue du verset 18 montre que donc ce sont deux choses qui vont ensemble, ce que j'appellerais moi les deux rames du disciple. On est dans une année de JO, désolé, il fallait que j'utilise forcément une image un peu sportive. Jacques condamne les paroles sans les actes, et là il sort le bazooka, l'artillerie lourde. Avec le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. La déclaration, c'est bien, c'est un sarcasme, dirigé contre justement cette orthodoxie morte des Juifs. Il n'existe pas de démons agnostiques ou de démons athées. Tous les démons croient qu'il y a un seul et vrai Dieu. Tous les démons savent que les Écritures sont la parole de Dieu. Tous les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu. Dans les passages que je cite ici, Marc 1, verset 24, Luc 4, verset 41, on voit leur réaction face à Jésus. Et je vais même plus loin, dans Acte 16, verset 17, quand Paul exorcise la femme esclave qui avait un esprit de divination, on voit que les démons connaissent finalement comment la voie du salut. Les démons savent que Jésus est mort pour expier le péché des hommes. Les démons savent qu'il a été enseveli et ressuscité. Les démons savent que le salut s'obtient uniquement par la grâce. Les démons savent aussi qu'il y a un jugement. Mais toute cette orthodoxie, aussi vraie soit-elle, ne leur est d'aucune utilité. Parce qu'il est dit, il tremble. Il tremble de peur, parce qu'ils savent que la rédemption accomplie par Jésus-Christ n'est pas pour eux. Cette orthodoxie morte, vaine, cette foi des démons, en quelque sorte, hein, entre guillemets, hein, elle est à opposer à la foi agissante, véritable, active, vivifiante, de deux modèles que Jacques va citer juste après. C'est la première fois qu'il parle de ces de personnages hein, dans l'Ancien Testament, et il ne le fait pas que dans Jacques 2, hein, il va le faire aussi dans d'autres épîtres, mais mes camarades auront l'occasion d'en parler hein, dans les prochains chapitres. Les deux premiers personnages qui sont évoqués ici, c'est Abraham et Rahab. Abraham, au sommet de l'échelle sociale. Rahab, au contraire, tout en bas. Et Jacques les cite comme modèle. Et il n'y a pas que Jacques qui les cite comme modèle, parce que ces deux personnages, on va les retrouver dans d'autres passages, et notamment dans l'Épître aux Hébreux, dans cette fameuse galerie des super-héros de la foi, hein, avec Abraham, avec Rahab, de nouveau. Alors, moi je vais surtout insister sur Rahab, la prostituée, qui effectivement est tout en bas, hein, cette aubergiste païenne qui se prostitue pour survivre, hein, et qui d'après le récit de Josué 2, versets 8 à 12, va, et cette femme hein, qui va placer sa foi dans le Dieu d'Israël, en cachant notamment les fameux espions israélites. Quand les espions israélites arrivent dans sa taverne, Rahab dit tout de suite « Je vais vous cacher ». Elle est dans le fer. En risquant sa vie, si le roi de Jéricho avait appris ce qui s'était passé, c'est une trahison. Abraham, lui, a tellement confiance en Dieu hein, que quand celui-ci lui demande de sacrifier son fils sur l'autel, il le fait aussi. Il obéit. En étant persuadé, bien évidemment, que Dieu allait agir au moment fatidique. Le riche qui n'hésite pas à sacrifier son héritage promis. Voilà deux modèles pour nous. Rahab et Abraham ont prouvé leur foi en étant prêts à sacrifier ce qu'ils avaient de plus précieux. Abraham, on l'a dit, son fils, Rahab, sa propre vie. Leur foi les a conduits à l'obéissance. C'est une foi agissante, active, qui cherche naturellement le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur ? Je veux te servir. Rien de commun avec l'orthodoxie morte des démons, qui ne produit que la peur et l'immobilisme. Foi et peur sont inconciliables pour Jacques. Pour terminer donc, cette illustration qui montre ce lien foi et œuvre, les deux rames du disciple obéissant nécessaires pour avancer. En préparant la prédication, j'ai lu cette histoire, celle d'un batelier qui possédait donc une barque avec laquelle il avait l'habitude de faire traverser des passants. Et sa barque, pour avancer, donc il utilisait les deux rames. Sur l'une des rames, il avait écrit en gros le mot « foi ». Et sur l'autre rame, il avait écrit en gros le mot « œuvre ». Alors, je ne vous fais pas un dessin. Hein. Si on veut avancer, il faut bien évidemment utiliser ces deux rames. Mais un passant lui posa cette question, hein, « Pourquoi avoir gravé du coup ces deux mots hein, « foi »,« œuvre » sur ces deux rames ?» Le batelier choisit donc de ne pas lui répondre tout de suite, mais de simplement utiliser dans un premier temps la rame « foi ». Alors qu'est-ce qui se passe ? La barque dévie de son but et le bateau se mit à tourner sur lui-même. Il fit la même chose, donc il arrêta de ramer avec la foi et il décide de ramer avec les œuvres cette fois, la rame œuvre. Le résultat est le même, sauf que bien évidemment il va dévier dans l'autre sens. Le batelier lui demande du coup s'il a compris cette leçon et celui-ci acquiesça. Si nous voulons avancer et porter du fruit en abondance, faisons comme cet homme. La rame de la foi doit être accompagnée de celle de l'obéissance, de celle du zèle pour l'Évangile. Tant que ce ne sera pas le cas, on aura du mal à progresser, on aura du mal à avancer. On répétera sans arrêt les mêmes fautes, on tournera en rond. Ou alors, on peut être comme cet homme qu'évoque Jacques, notamment dans le chapitre 1, il parlait notamment de cet homme qui est ballotté par les vents. Alors si vous ne voulez pas être ballotté dans votre petite embarcation par la météo des épreuves, ben justement, il va falloir ramer. C'est avec donc cette image que je vais conclure. Est-ce que vous êtes prêts à ramer pour l'Évangile ? On va prier.